de se dire on est un musée du train et tout d'un coup il y a des animaux partout, le musée est envahi. D'où vient l'idée? Comment est-ce qu'on peut peut-être réconcilier cette idée folle avec voilà, le sens du train et le sens du train world?
Oui, d'autant plus que des grandes expositions de train world, c'était Paul Delvaux, c'était une évidence de mettre les tableaux de Paul Delvaux. Il était comme habité, ce train world, par l'œuvre de Delvaux. On a l'impression que tous les tableaux avaient été peints dans ce musée. Puis après, il y a eu la fameuse ligne Pékin Hongkong par Jean Jadot, une ligne extraordinaire de cet homme qui construit plus de 1000 km au cœur de la Chine, histoire assez méconnue des Belges. Et puis, bien sûr, le train légendaire de l'Orient Express, et puis la beauté la magnificence des trains royaux. Donc on est dans le patrimoine ferroviaire. Ici, c'est très différent parce qu'on s'avance, on s'engage dans un regard sur un problème très contemporain, très crucial, et c'est vrai que ça peut surprendre, et en même temps, je trouve que c'est aussi le rôle d'un lieu comme le Train World d'avoir un regard sur ce qui est en train de se passer et de voir le rôle que peut avoir, qu'a déjà, mais qu'aura encore plus le ferroviaire dans les enjeux qui nous attendent. Et donc, c'est un projet qui a été extrêmement complexe à faire. On sait, depuis des années, on travaille sur ce sujet, et ben, c'est grâce évidemment à Pierre-Yves Ranquin, parce que là, on avait quelque chose à montrer, à mettre au cœur de ce musée, pour dialoguer avec ces machines. Parce qu'en fait, le train world est un objet difficile. C'est pas si simple de mettre quelque chose à côté de la beauté et la magnificence de ces locomotives et de ces trains. Il faut affronter cette confrontation, je veux dire. Et du coup, on a beaucoup cherché, et Pierre-Yves nous a donné, par son expertise, par son talent, les moyens de créer un petit peu, d'abord la rêverie, l'imaginaire et l'effet poétique qu'on recherchait. Parce qu'on voulait non plus être dans la culpabilisation. Aujourd'hui, c'est un sujet où on sent comme une chape de plomb, comme une montagne qui nous attend. Et on veut aussi qu'il y ait un désir de demain. On pense beaucoup aux enfants quand on fait une exposition comme Animalia. On pense beaucoup au plaisir qu'ils auront à regarder une girafe à côté d'une locomotive, à regarder un haras passer au-dessus des machines. Et donc, il nous fallait ça pour donner l'envie. Et après, bien sûr, on a eu la chance d'avoir Jean-Pascal et Caroline pour nous cadrer un peu, pour avoir un regard scientifique. Et ça, c'était absolument essentiel. Et quand on a eu ces deux éléments, on a les tensions dans lesquelles ce projet se construit. Et alors, heureusement, on a un ensemble d'artistes formidables. Parce que, vous savez, un projet comme ça, c'est un projet vraiment collectif. D'ailleurs, je pense que la société devra collectivement avancer, mais Animalia est sans doute le projet le plus collectif de tous ceux qu'on a fait, parce qu'il y a eu vraiment de l'équipe de Train World, de l'équipe du patrimoine historique, et puis alors Expo Duo, Pascal et Véronique, mais tous les artistes, les réalisateurs, les maquettistes, les cordistes, on a un ensemble d'acteurs extrêmement créatifs. Et c'est difficile de dire, comment dire, tout est aussi important l'un que l'autre. Et c'est ça qui est délicat dans un projet comme le Train World, c'est qu'il faut que tout fonctionne, que tout marche, que le musicien s'accorde avec les films, et c'est un petit peu ce miracle-là qu'on a cherché à vous donner.
Nous avons produit des musées nationaux, puisque très jeune, j'étais engagé pour le patrimoine d'État au musée des sciences naturelles de la Bruxelles, rue Vautier. C'est sûr que pour faire ce genre de métier, il faut être très passionné et rentrer dans cette problématique qui est l'animal qui décède et qui parfois représente une rareté, une complexité dans un cadre, dans un zoo pour sauver des espèces, etc. Et j'ai toujours été très très passionné et tenu à ce travail. Je partis relativement vite parce que j'ai d'autres envies et je préfère voyager, découvrir d'autres mondes, d'autres techniques. J'ai travaillé dans beaucoup d'ateliers à travers le monde. La taxidermie est magnifique, évidemment, a toujours été liée, on pense, au musée ou au monde de la chasse, mais tout a changé, et il fut une époque où l'animal va être de plus en plus demandé au niveau de la communication et de la publicité, principalement. J'ai réalisé beaucoup de choses que vous avez vues sans vous rendre compte pendant des années où le support papier publicitaire était encore très important, où le faux se travaillait en studio, en direct, c'était des très belles années avant qu'arrive évidemment le digital et l'ordinateur qui, on pense, a révolutionné beaucoup de choses, mais a tué beaucoup de choses artistiques qu'on pouvait faire en studio. Bon, peu importe, j'ai continué à travailler dans pas mal de pays pour des raisons didactiques. Je suis très tenu à expliquer ce qui se fait. On a souvent une mauvaise approche. Bon, on va au musée des sciences naturelles pour des animaux naturalisés. Donc ce sont des espèces qui sont vulgairement empaillées, où on a un peu de moulage. Ce que j'ai aimé dans le départ de ce projet-ci, c'est que comme on va parler surtout de l'avenir, le train, la chance qu'on peut avoir pour sauvegarder une forme de publicité parce que nous n'avons plus de pollution importante qui se faisait malgré tout avec ce patrimoine que nous avons, les énergies fossiles, voilà, on est dans un basculement de société, tout change. Et je dis ça parce que même mon métier, où c'est taxidermie, récupérer des animaux pour les préparer, etc., change aujourd'hui parce que nous avons des techniques de moulage, nous avons des systèmes à ordinateur où on peut donner la véracité d'un animal. Cet aigle, par exemple, on va le structurer avec un ordinateur et puis on va le finir en sculpture. Vous verrez des animaux comme un crocodile de l'autre côté, vous êtes sûr que c'est un vrai, tout est faux. Tout est faux. Donc on n'a plus ce besoin-là, on doit absolument changer les idées et même dans nos métiers, revoir les choses pour que c'est un réel attrait. Le carton, les techniques disparues, qui donnent des résultats assez extraordinaires, qui ont cette idée de musée des sciences naturelles, mais qui ne l'est pas du tout. Et dans le départ de notre projet, ce qui est sûr, ce qu'on a oublié, et je ne sais pas pourquoi, mais combien de nos machines ont des noms d'animaux. Nos premiers ingénieurs donnaient des noms d'animaux à nos machines. Donc il y avait déjà cet aspect de bête, et il y avait aussi, pour ceux qui les fabriquaient, cette énigme, que va-t-on découvrir dans ces continents qu'on va tout doucement aller explorer. Donc il y avait un imaginaire autour de l'animal, et on a essayé de trouver un juste milieu aujourd'hui pour vous plonger dans ce monde-là. Voilà.
Une exposition sur la biodiversité, j'ai envie de dire c'est rare, c'est trop rare, on n'en parle pas souvent, ou on en parle par des détours. Et alors souvent quand on parle de l'imaginaire de cette biodiversité, et là le travail de Pierre-Yves qu'on va découvrir dans le musée est peut-être représentatif de ça, on pense à des éléphants, des girafes, des animaux exotiques qu'on voit disparaître, et pourtant la biodiversité elle est sous nos pieds, elle est chez nous en Belgique. Et donc quelle est l'importance de cette exposition pour que, je dirais, nos concitoyens belges se rendent compte de cette richesse et des menaces qui l'entourent?
Merci, vous m'entendez bien. Donc, je voudrais partager une expérience qui, je pense, va répondre à votre question. Donc, hier, j'étais avec une partie de mon équipe dans un champ agricole, dans une région de la Belgique qui est en fait le grenier vraiment de la Belgique, le Brabant wallon. Et avec les propriétaires, l'équipe, on arrive au centre de cette propriété qui est de 300 hectares, centre des champs agricoles belges. Et à l'endroit en fait, où on était censé trouver un plan d'eau, il n'y avait rien. Et sincèrement, moi et tout le monde, on a eu le dos glacé. Parce qu'en fait, il n'y avait plus d'eau depuis le mois d'août dernier. Et cette propriété agricole, elle est en fait située à côté de la plus ancienne forêt du Brabant wallon qui s'appelle le Bois de Buis, pour lesquels on a des traces historiques de présence de la forêt il y a déjà 400 ans sur des vieilles cartes. Et dans ce bois de buis qu'on parcourait à côté des champs, il n'y avait aucun chant d'oiseau. Et donc en fait hier, on a pu percevoir vraiment ici en Belgique ce que c'est que le printemps silencieux et ce que c'est que le dérèglement climatique. Et je pense que cette exposition, elle a en fait vraiment la possibilité d'ouvrir les yeux en fait des gens pour que nous puissions tous percevoir ici et maintenant que c'est en train de se passer. Et je pense que cette exposition est absolument exceptionnelle pour différentes raisons. Donc la première, c'est qu'elle va ouvrir en fait la perception de la crise de la biodiversité à un public qui n'est pas nécessairement sensible, puisque jusqu'à présent, toutes les infos sur la biodiversité, c'est dans les musées d'histoire naturelle, et pas des musées qui ne sont pas d'histoire naturelle. La deuxième grande qualité de cette exposition pour moi, c'est d'arriver à parler de plusieurs problèmes environnementaux qui sont liés, donc climat et biodiversité, c'est la première fois, je pense, dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les causes, les conséquences et les solutions sont partiellement liées, en fait, entre climat et biodiversité. Et ici, j'espère que ça va vous apparaître clairement. Et la troisième grande qualité de cette exposition, et chacune de ces raisons, pour moi, était suffisante pour justifier l'exposition, mais la troisième raison, c'est qu'on a les artistes qui s'emparent du sujet et qui le rendent, en fait, acceptable, audible, parce qu'il devient beau, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que nous, les scientifiques, on n'est pas capables de faire. Et on a besoin des artistes de rendre, en fait, le message audible avec ce sentiment et cette sensibilité à la beauté de la vie, de la Terre, qui, quand on l'aperçoit bien, bah, du coup, nous donne envie de comprendre qu'on en fait partie et qu'en la détruisant, bah, on se détruit aussi.
Les artistes sont beaucoup plus compétents. Les artistes sont beaucoup plus compétents, il faut le reconnaître. Et donc, il faut travailler ensemble. Et donc, ici, on a une exposition qui allie une série de faits qui ont été validés scientifiquement. Tant Caroline que moi, on a eu de très multiples échanges pour changer les dernières virgules, les derniers chiffres, les adjectifs pour que
ce soit
tout à fait correct. Et en même temps, on a un ensemble qui a une cohérence esthétique magnifique. Et cette alliance aussi entre la biodiversité dont on parle, les changements climatiques dont on parle aussi, parce que c'est une, c'est pas la principale, mais c'est une des causes, hein, comme expliqué dans l'exposition, de l'érosion de la biodiversité. Mais lier cela à ce qui parle au cœur, mais c'est ce qui permettra probablement, comme cela a été dit aussi, de toucher un plus large public, dans ce d'aller de développement durable adopté en 2015, juste deux mois avant l'accord de Paris, c'est l'élimination de la pauvreté, le deuxième l'élimination de la faim, etc. Le troisième la santé pour tous, le quatrième l'éducation. Le numéro 13, c'est, il n'y a pas de hiérarchie, tout cela est complémentaire, et c'est pour ça que c'est un cercle, que tout se touche et que tout doit être vu ensemble de manière holistique. Numéro 13, is climat, accès à tous ces problèmes. Et ici, on explore surtout les liens entre biodiversité et changement climatique. Et les solutions, je vais terminer par ça, ce qui est important, très important, je crois, dans tout ce que l'on fait pour parler de ces sujets-là aujourd'hui, c'est de ne pas rester au stade où on alerte une fois de plus, en parlant à la tête et au cœur très bien, mais on alerte par rapport à des problèmes sans parler des solutions, des éléments de solutions qui existent. Et je suis convaincu depuis très longtemps, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est venu me chercher aussi, que les transports publics, le train en particulier, fait partie de ces éléments de solution. Je suis vraiment convaincu que nous avons l'avenir très largement entre nos mains. L'évolution, tant du côté de la biodiversité que du côté du climat, n'est pas une fatalité. Heaven de participer à cet effort.
Eerst van een verschil. De efficiëntie van de trein is heel groot. En als je dan ook nog het energieverbruik, en dat is natuurlijk waar wij als NMBS ook al jaren op sturen, van hoe kun je je energieverbruik per kilometer verminderen.
En dat heeft beaucoup d'électrification des voitures ou d'autres modes de transport, des camions et autres. Et on ne se rend pas toujours compte en fait, que le train a été un grand précurseur, vu que le premier train électrique a circulé en 1935. Et donc par conséquent, on est là vraiment face à une technologie qui, depuis très longtemps, essaye d'être de plus en plus efficace en termes d'énergie. Et Yeroul le dit très bien, on voit ces dernières années un découplage. D'une part, un train qui consomme de moins en moins, qui est de plus en plus efficient, qui est de moins en moins gourmand en énergie, et d'autre part, un parc de voitures qui augmente, et les rejets de CO2 liés à la voiture qui, eux, ne cessent d'augmenter. Et donc, vraiment, deux modes de transport avec des profils très différents. Et comme Yeroul le dit à la fin, si on arrive à faire basculer quelqu'un de la voiture vers le train, c'est une de voitures de moins sur les routes, et donc une voiture qui ne rejette plus de CO2. Mais c'est une place libre dans un train qui, si elle est occupée, ne rejettera pas plus de CO2. Et donc on peut vraiment avoir un trajet très vertueux pour arriver à diminuer nos rejets de CO2 au travers des transports. Et évidemment, on a l'infrastructure. infrastructure ferroviaire, mais on ne pense pas toujours que le long de ces 6500 km de voies, ben, c'est chaque fois des habitats naturels, c'est de la faune et de la flore qui habitent sur les rails, qui utilisent les rails pour traverser aussi à un moment donné, pour aller d'un habitat à un autre. Yeroun l'a dit aussi, il dit sur une largeur beaucoup plus petite, on peut transporter plus de gens, mais qui dit largeur beaucoup plus petite, dit interférence beaucoup moindre entre des habitats et des coupes beaucoup moins fortes du chemin de fer. Et donc, de ce point de vue-là, Infrabel s'investit aussi pour protéger toute une série d'animaux le long de ces voies. Et on pense toujours, nous, aux grands animaux qu'on peut voir dans le musée, mais il y a évidemment toute une biodiversité de petits serpents, de petits oiseaux, de petits animaux qui ressemblent fort à des souris ou des petits rats, etc., des petits animaux sauvages qui ont besoin vraiment de cet habitat le long des bernes ferroviaires pour pouvoir vivre et survivre. Et alors, je me permets de rajouter un point, parce que c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup plu dans l'exposition, c'est que, et ça d'ailleurs le lien avec le réchauffement climatique est très fort, c'est que Infrabel aussi dans ses procédés de fabrication est allé vers l'achat de traverses vertes, du groupe de Dwarfsliggers, qui font en fait que les rejets de CO2 des processus de production de la matière première d'Infrabel avec laquelle ils établissent le réseau a aussi pu être réduite. Et donc on vous invite à également les découvrir dans l'exposition.